This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la bédéaste Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazuet et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute.
Est-ce que c'est bon ?
C'est hyper bon, mais vraiment hyper bon, je me régale.
Je suis très contente d'avoir fait ce choix.
Ah ouais, moi aussi je suis très content que tu aies fait ce choix.
Dans le ventre de Ben Mazuet.
Je vous embarque dans le studio de Ben Mazuet. Ben Mazuet est un chanteur, compositeur. Il se raconte depuis une dizaine d'années dans ses chansons très personnelles et à la fois très universelles. Une sorte de carnet de route à l'usage des mortels qui traverseront dans leur vie des amours et des désamours. Dans son dernier album, Paradis, Ben parle de sa séparation avec sa femme, la fin d'une histoire d'amour sur l'île paradisiaque de La Réunion. Alors pour notre rencontre, j'ai réfléchi à un plat qui pourrait soigner les peines de cœur. Et je suis arrivée à la conclusion qu'il nous fallait un couscous de poisson. Tout simplement.
Bonjour.
Bonjour.
Vous savez, je vous avais appelé pour
les deux poissons. Avec une salade.
Salade.
Une belle salade de concombre, tomate, oignon, thon et un œuf dur, c'est ça?
Très bien. Je ne sais pas compter comment vous vous appelez.
Mohamed.
Mohamed.
C'est des mots.
Merci. Écoute, comme on va manger un couscous, tu vas t'en faire un pour toi? Sinon, moi, de l'eau, ça me va.
Allez, un verre d'eau, donc.
Est-ce que tu es un peu au courant du concept de l'émission? Le but de cette interview, c'est de t'interviewer pendant que tu manges aussi. Donc, c'est un podcast que je fais pour Sony.
Ok.
Et il s'appelle Dans le ventre 2. Et le concept, c'est que je mange avec des artistes. Okay. Et c'est un peu un portrait de la personne à travers ce qu'elle mange.
Ah, ok.
Voilà.
D'accord. Très bien. Ok.
Voilà, ça te va?
Ah oui, ça me va très bien. C'est très bien.
Est-ce que t'as faim?
J'ai toujours, moi, un peu faim, ouais.
D'accord. Parce que j'ai demandé, donc généralement, j'essaie quand même d'amener des choses que peuvent aimer les artistes, a priori. Ouais. C'est plus sympa.
Ouais.
Et j'ai demandé à Nicolas, ton manager, qui m'a dit, il aime tout.
C'est vrai, ouais, j'aime tout. Ouais, c'est un peu vague comme réponse, j'aime tout.
Moi, je trouve ça plutôt très louche.
Ah bon? Ah bon? Écoute, pourtant, non, je trouve que tout ce qui a trait à la nourriture me plaît, donc j'essaye. Et puis je trouve que aussi c'est les privilèges de l'âge. Avec l'âge, on finit par apprécier les trucs qui au départ nous plaisaient pas tellement. On met du temps parfois à être converti à un aliment, un produit, un plat.
C'est vrai, je me faisais cette réflexion avec des amis et on se disait, avec l'âge, on se met à aimer ce qu'aimaient nos parents et ce qu'on comprenait pas du tout quand on était gosse. Et c'est... Non, t'as ça aussi parfois, cette réflexion-là?
Ouais, nos parents des adultes, en tout cas. C'est vrai qu'il y a des plaisirs qu'on comprenait pas très bien et qu'on comprend certainement un peu mieux. Et par rapport à la nourriture, c'est vrai que j'avais des trucs que j'aimais pas. Et aujourd'hui, j'ai plus ça. Il y a vraiment plus de trucs que je peux vraiment... Dont je peux dire, ça ne me plaît pas, j'aime pas. Tu vois, c'est très rare quand même.
Et qu'est-ce que tu mangeais quand t'étais enfant, alors?
Je mangeais déjà principalement la nourriture que ma mère nous préparait, parce que ma mère faisait la cuisine beaucoup, mon père un peu aussi, mais peut-être plus occasionnellement. Ma mère, c'était un peu la cuisine du quotidien. Et elle avait vraiment à cœur de nous préparer des choses. Donc il y avait vraiment très peu de plats déjà préparés, tu vois. Elle tournait autour de quelques recettes. Elle n'était pas franchement cuisinière dans l'âme. C'était pas son truc. Mais elle avait quand même deux, trois super masterpieces, quoi. Notamment une blanquette de veau. Mais un truc. Une blanquette de veau faite en 20 minutes, en plus à la cocotte. Complètement exceptionnelle, que j'ai jamais réussi à faire, à refaire. Et pourtant, peut-être en 2003, un truc comme ça, j'ai offert à mes sœurs, pour Noël, les recettes de mes parents. J'ai demandé à mes parents de m'écrire leurs recettes et je leur ai offert des fiches recettes comme ça des masterpieces de nos parents. Et c'est, ça, c'est pas mal, j'avoue. C'est assez cool.
C'est génial de faire
après,
ça.
Parce que du coup, une fois qu'ils sont morts, après, tu peux plus le faire. Et là, le fait de les avoir maintenant, ça fait plaisir.
Parce que tu as perdu tes parents entre-temps.
J'ai perdu ma mère, ouais. Non, mon père est là. Mais du coup, c'est vrai que ma mère, qui cuisinait beaucoup, c'est pratique de pouvoir refaire ses plats. Après, il fait partie aussi de ces gens qui ne savent pas du tout bien expliquer comment on fait un plat, qui ne connaît pas bien les proportions et qui oublie des étapes essentielles, qui le fait de tête ou de cœur, mais qui ne sait pas vraiment bien l'expliquer.
Bah, ouais, il y a quelque chose dans la transmission des recettes. Souvent, je trouve que les personnes qui les transmettent, elles oublient toujours un peu quelque chose et on n'arrive pas à retrouver vraiment le goût. Non. Mais moi, je vois ça un peu comme une quête. C'est-à-dire que, du coup, ils te laissent aussi avec un peu cette recette non finie. Et en fait, toi, tu vas essayer de retrouver ce goût. Tu peux essayer pendant plusieurs années et c'est assez beau, en fait. C'est comme si le dialogue, il continue un peu.
Mais complètement, absolument. Mon père, par exemple, il a une manière de faire la salade. Les sauces de salade qui est vraiment extraordinaire. Et je lui demande régulièrement quel type d'herbe il met, quel type de farine, de trucs. Et il me dit pas tout à fait. À chaque fois, je cherche encore. Et du coup, c'est jamais vraiment le bon dosage d'herbe. Il y a vraiment toujours un truc qui fait que quand je vais chez lui, je constate que j'y suis pas encore.
Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins. Faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau, ça va être nul. Et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça.
Tu as grandi à Nice?
Ouais.
Est-ce que tu as une enfance heureuse?
Oui. Je sais pas. En tout cas, parce que tu as commencé avec Nice. Je pense que Nice, c'est un bon endroit. Enfin, en tout cas, la Côte d'Azur, c'est un bon endroit pour faire. Pour élever des enfants, il y avait tout ce qu'il fallait dans ma vie pour que je m'épanouisse. Après, moi, j'étais pas un enfant toujours très heureux parce que j'étais plus passionné qu'heureux. Donc la passion m'amenait parfois vers des moments où j'en chiais un peu, j'en bavais un peu, mais c'est pas grave. Je préférais avoir une passion que le bonheur.
Mais t'étais passionné par quoi ?
Par un tas de choses. C'était plus un état d'esprit. Ça me marquait. Déjà la musique, hein, beaucoup. Déjà à l'époque, j'étais très ému par la musique. J'avais aussi pas mal d'état d'âme, en fait. Je me souviens d'être un petit garçon avec pas mal d'état d'âme. Des questionnements, des problèmes, des amours. J'ai eu tout de suite des amours. Moi, je vois, j'ai des enfants qui ne me parlent jamais de leurs amours et puis qui même quand je les travaille, me disent non, mais nous, non. Enfin. Et je suis surpris parce que moi, j'ai très vite aimé, je crois.
Mais est-ce que c'était des amours à sens unique ou des amours partagés? Parce que moi, ado, j'étais très amoureuse et ça me faisait dans tous mes états, mais c'était complètement à sens unique. C'est-à-dire que je le disais jamais, tu vois. Tu prends un air dubitatif.
C'était très souvent à sens unique. C'était très souvent des passions, plus que des amours, sur des gens qu'on imaginait plus que... qu'on constatait, enfin il y avait quelque chose, on imaginait quand même beaucoup quelqu'un Enfin, moi, en tout cas, j'étais un peu comme ça. Et puis, c'était des passions d'amitié aussi. Des passions immenses d'amitié, pour le coup, très réciproques. Je me souviens avoir des rapports humains à ce moment-là avec des gens très forts, vraiment très, très forts. Ouais.
Est-ce que tu es un peu faim parce qu'on parle devant la nourriture? Alors, je vais t'expliquer. Il y a des fourchettes et des cuillères. Et donc, c'est Mohamed, le restaurateur.
Vas-y.
Et vas-y, non, prends des photos, je parle. Et c'est Mohamed Sidibou. Et il est tunisien. Et en fait, quand tu arrives, tu as l'étal de poisson frais. Donc, c'est toujours du poisson frais. Mm-hmm. Et il fait un couscous avec du poisson tous les jours. Génial. Et donc là, j'ai pris ces couscous dorades.
Ok, waouh.
Et j'ai pris des briques aussi parce que je me suis dit, si on a encore un peu faim,
génial,
je prends le couscous.
Des briques à quoi? À rien?
Et ben ça, je sais pas. Je pense que ça doit être, à mon avis, c'est pas à rien. Peut-être que c'est thon. J'aimerais bien que ce soit thon parce que j'aime bien les briques au thon.
Ah ouais, moi j'aime bien les briques à tout.
Mais elles sont bien.
Ah, elles sont magnifiques. Voilà. On va la goûter, non?
Ouais.
Alors, t'as remarqué que depuis quelques années, quand on mange, on est sûr ou on part sûr. Par exemple,
oui.
Là, j'avais envie de dire, ben là, on est sur une brique manifestement aux œufs.
C'est l'effet Top Chef.
Un peu brandade, un peu.
Il y a un côté brandade parce qu'il y a de la pomme de terre.
Ah ouais.
Et je pense qu'il y a du poisson.
Il y a un petit peu de matière grasse. Merci. On ne peut pas la louper, quoi.
Elle sort, il y a l'huile qui sort.
Ouais. D'accord.
C'est beau, hein?
C'est très beau.
Et je pense que là, c'est le bouillon, évidemment, si tu veux ouvrir aussi.
Évidemment, on est, on n'est pas sur de la vaisselle de ouf, parce qu'on est dans mon bureau et que je n'ai pas de vaisselle dans mon bureau. On aimerait pouvoir manger ça dans des jolis plats, parce que ça change tout quand même, le contenant. Je ne sais pas comment toi, tu as appris la cuisine, mais moi, j'ai appris... avec une importance du contenant vraiment costaud, quoi. Mes parents, ils supportent pas qu'on apporte à table la casserole, il faut mettre dans des plats, toujours dans des plats. Je trouvais ça insupportable quand j'étais petit, et maintenant je le fais, tu vois.
Encore un truc.
Ah ouais, exactement, encore un truc. Oh, c'est hyper bon.
Donc toi, Ben, ton dernier album qui s'appelle Paradis, ça raconte et ta rupture et aussi ta vie à la Réunion où t'es parti vivre pendant un an.
Ouais, absolument.
Et je me suis
d'où
dit...
le couscous. Ça t'est venu direct, du coup. T'as dit, Réunion, couscous.
Voilà, tout à fait. Mais figure-toi qu'il y a eu quand même... C'est parti de ce cheminement-là. Je me suis dit que tu devais aimer... Tu devais être quelqu'un d'ouvert à différents types de cuisine. C'est ce que je me suis dit.
Ah ouais. Je suis très ouvert à différents types de cuisine. Et il se trouve que moi, j'ai grandi dans une famille qui a pas mal vécu dans des pays de riz, où on mange beaucoup de riz. Et donc, du coup, ils ont chopé ce truc-là, ce virus du riz. Donc, moi, chez moi, on mange beaucoup de riz. On met du riz à table tout le temps, même quand c'est des lasagnes. Donc, j'exagère, mais on est, tu vois, c'est presque ça. Et du coup, moi aussi, j'ai eu ce truc-là. À La Réunion, c'est pareil. On mange beaucoup de riz aussi.
Et comment tu as décidé de partir à La Réunion? Pourquoi ce choix-là?
Eh bien, en fait, j'étais allé à La Réunion quand j'étais étudiant. Et j'ai eu un coup de foudre pour cet endroit qui ne s'explique pas tellement. Je me sentais bien, je me sentais moi. Il y a des endroits comme ça dans le monde qui, lorsque vous les découvrez, vous sont immédiatement familiers. Alors que rien ne m'y attache, hein, réellement. Et dans lesquels j'avais l'impression que je pourrais mener une existence entière. Parce que je me sentais plus... moins stressé, plus à l'aise dans le climat, dans le paysage avec les gens. Tout me faisait du bien. Donc je me suis dit qu'un jour, je reviendrais là-bas à vivre. Et puis après, j'ai rencontré une fille, on a fait des enfants. Elle n'avait pas forcément envie d'aller vivre à 12 000 km de son entourage, donc c'était plus difficile de faire ce projet-là. Et puis finalement, à un moment, l'opportunité s'est présentée d'y aller un peu. Et donc on a fait ça, on est parti quelques mois, un peu plus, vivre un peu cette expérience-là. Et j'ai complètement adoré. Vraiment, j'ai un souvenir ému de ce moment.
J'écris gonflé d'espoir, ou triste comme un dimanche. J'écris quand je veux y croire. Quand ma bonne étoile flanche, l'essence de mon âme brille quand je mets des mots sur les émotions qui torpillent mon cœur jusqu'au stylo, j'écris pour expliquer, parce qu'en expliquant j'éteins un malaise qui veut pas me lâcher. Depuis le matin j'écris, tant pis si c'est mauvais, et tant pis si c'est perdu, c'est une question d'équilibre, et c'est pas toujours pour être lu. Le sort est un poème, le destin est un roman, avec la mort comme emblème, pour que chaque moment compte.
Et du coup, là-bas, t'as écrit aussi ton album Paradis, ou ouais, tu l'as écrit en rentrant?
Les deux. Je remange, hein. Je dis, parce que du coup, ça va s'entendre.
Et dans cet album, tu parles de ta rupture. Tu voyais cette rupture qui pointait son nez en même temps que t'écrivais tes chansons, ou les chansons, c'était aussi c'est un peu une thérapie quand t'écris par rapport à ce qui se passe au moment où tu l'écris? Je sais pas si ma question est très claire, mais...
J'entends une question de est-ce que écrire c'est une forme de thérapie?
Tu peux répondre à ça, c'est bien, elle est mieux posée.
Dans des situations délicates de ton existence, certainement, mais c'est pas toujours destiné à être lu ou à être public. Ça devient destiné à être public quand l'émotion que tu décris, ce que tu la considères comme étant partageable. Donc moi, je parle de la rupture, effectivement, parce que j'en ai vécu une, mais j'essaie de parler de la rupture. Enfin, j'essaie de à travers moi, parler de décrire des émotions qui soient des émotions que d'autres personnes ont pu ressentir. Sinon, ça, c'est pas intéressant, je pense. Ouais.
Oui, c'est-à-dire que si ce que tu écris est transcendé par autre chose, tu arrives à en faire autre chose, ça devient une chanson, sinon c'est pas destiné à être lu et ça reste dans ton journal intime.
Voilà, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Note que là on parle de La Réunion depuis tout à l'heure, mais que moi au départ je suis quand même né à Nice, de parents méditerranéens, donc... La cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine qui me parle aussi beaucoup. Pour le coup, là, il y a des odeurs d'enfance, beaucoup. Ma mère faisait des briques tout le temps.
Ah oui?
Ouais, qui n'étaient pas très bonnes d'ailleurs. Toujours pareil, œufs, thon. Oh, j'exagère, je ne suis pas sympa avec elle. Si, elles étaient très bien, ces briques.
Mais ta mère, on dirait qu'elle était un peu obligée de cuisiner pour ses enfants, mais qu'au final, si elle n'avait pu pas le faire, ça la faisait un peu chier. En fait, quand tu dis que ce n'était pas nécessairement très bon, c'est peut-être aussi que c'était à cette époque le rôle auquel elle était assignée et qu'elle aurait préféré faire autre chose.
Totalement. Il y a plein de fois, elle disait « je ne sais plus quoi vous faire, j'en ai marre, je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas quoi vous faire ». Tu vois, elle a vraiment ce truc de « elle ne trouvait plus ». C'est notre époque, là, c'est l'époque, effectivement... l'époque du patriarcat, dont on sort péniblement et lentement, mais effectivement, où toute cette, je vais utiliser plein de mots très à la mode, où toute cette charge mentale était portée par la mère, qui devait effectivement nourrir, à travers une alimentation saine et équilibrée et diverse, ses enfants, pendant que le père, lui, travaillait, et puis parfois, un dimanche, papa faisait la cuisine. Effectivement, ça a complètement changé. Après, moi, tu vois, qui fais la cuisine donc, tous les jours pour mes enfants, ça me plaît de chercher des idées. J'aime bien ce moment. J'aime bien toute la convivialité autour du repas. C'est vraiment un moment que j'adore avec mes enfants. C'est le meilleur moment de la journée.
Tu disais que ta mère, elle avait ses plats phares,
ouais,
genre sa blanquette et tout. Est-ce que tu penses que tes enfants, ils diront plus tard « Ah ouais, ouais, papa, il nous faisait un truc... »
Le poulet rôti, clairement.
Quel est ton secret?
Il y en a plein. Mais la cuisson, je pense. C'est ça qui...
Basse température?
Je change en ce moment. J'essaye des trucs. J'ai fait longtemps basse température pour un peu le confier en mettant vraiment des tas de trucs dedans pour qu'il s'imprègne.
Est-ce que tu mets des trucs sous la peau aussi?
Sous la peau, ouais. On a fait ça. Ouais. Ouais. Fourré sous la peau. Ouais, c'est intéressant ça.
Est-ce que j'arrive? Est-ce que j'arriverai pas? À écrire ce que nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes les ruines du plus beau combat. Les restes d'un amour énorme. Les restes d'un amour énorme. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas? Y'a des chagrins qui te choquent, te sonnent, te choquent, te sonnent. La folie rôde autour de ces émois. Sur les restes des amours énormes, c'est fini. Sur les restes des amours énormes, c'est fini. C'est fini sans vainqueur, sans vaincu, sauf le cœur et le cul et les nerfs qui accusent le coup. Tant la guerre a duré, tant la guerre a duré. Et le début, la fin, c'était il y a des années. On s'est bagarré, et c'est bien, maintenant faut laisser aller.
J'avais deux autres questions que j'ai pas eu le temps de te poser. Je voulais savoir s'il y avait des trucs qui... Ben, si les chagrins d'amour, ça te coupait la fin ou pas?
Oui, Ça me coupe la faim, ah. Chagrin d'amour. Ouais, complètement. Oui, ça a tout à fait un effet sur mon appétit. Négatif. D'ailleurs, c'est un peu un marqueur. Quand je commence à avoir faim, c'est que ça va mieux.
Et donc là, ça va mieux.
Ouais.
Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus, c'est bien. Merci.
Merci, merci beaucoup, Zazie.
Si vous aussi, vous avez envie de réconfort, le couscous, c'est chez Sidi Bou Saïd à Aubervilliers. Vous pouvez le déguster en écoutant de la musique, comme le dernier album de Ben Mazué, Paradis, sorti chez Sony Music. Retrouvez l'actualité de Ben Mazué sur benmazué.fr. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
Oui, bonjour, c'est Mohamed.
Bonjour.
C'est Zazie, j'étais venue prendre un couscous pour au poisson pour manger avec Ben Mazué, l'artiste Sony.
Oui.
Bah, j'étais juste pour vous dire que c'était excellent.
C'est très bien, j'ai gentil, merci. Merci, j'ai gentil, j'ai pas de
problème. Bon, bonne journée.
Ah oui, avec plaisir, madame. Au revoir, merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Vous venez d'écouter un épisode de Dans le ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.